Bonsoir à toutes et à tous. Chauffeurs routiers, salariés de la grande distribution, mais aussi du secteur de l'eau, de l'électricité, éboueurs, policiers, ils sont tous sur le pont pour faire tourner le pays et nous apporter le minimum vital. Mais justement, ces salariés ne se mettent-ils pas en danger en allant ainsi travailler, le plus souvent sans masque ni gel hydroalcoolique? Comment comprendre cette double injonction contradictoire, à savoir rester chez soi confiné, mais aussi sortir pour aller travailler? Qu'en est-il du droit de retrait, de l'absentéisme? Y a-t-il des risques de pénurie? Faudra-t-il avoir recours à des réquisitions? Quelle sera la facture économique de ce coronavirus? Certaines entreprises, certains secteurs pourraient-ils ne pas survivre à cette épidémie? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Confinement, ces héros qui font tourner la France ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Robin Rivaton. Vous êtes essayiste, entrepreneur, auteur de l'immobilier « Demain, c'est chez Duno ». Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de « L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?» C'est à la documentation française. Et puis comme tous les soirs, désormais par Skype, pour limiter les déplacements et la proximité, on retrouve Fanny Guinochet, grand reporter à l'Express, l'Express qui titre cette semaine « La France confinée ». On vous retrouve également tous les matins sur France Info. Et puis Sophie Fay, grand reporter à l'Obs, en une cette semaine de l'Obs Faire Face. Et on vous entend également tous les matins pour l'Histoire Éco. Vous, c'est sur France Inter. Bah, Sophie Fay, on commence avec vous. Oui, malgré la peur du virus, les salariés dans les secteurs dits essentiels, alors d'ailleurs, reste à savoir ce que c'est, les salariés répondent présents, ils sont là à la grande majorité?
Oui, ils sont en grande majorité là et ils sont en général assez volontaires et assez conscients de leur utilité, mais ils sont très inquiets. On le voit dans la grande distribution, il y a pas mal d'appels. Les entreprises ont épuisé un peu tout leur stock de masques et de gants, en particulier les petits réseaux. On le voit aussi dans certains domaines où les fédérations sont inquiètes. Par exemple, si vous prenez le secteur du papier, de la pâte à papier, de la cellulose, ils ont demandé, eux, au ministère de les classer en secteur stratégique pour le secteur nécessaire à l'activité économique dans cette crise, pour que leurs salariés se sentent reconnus et qu'ils se sentent reconnus et qu'ils viennent sur leur lieu de travail, qu'ils n'aient pas envie de rester confinés chez eux. Mais il y a beaucoup de ce qu'on est en train de découvrir, c'est que même quand un secteur n'est pas stratégique, il l'est en réalité. Si vous regardez, par exemple, le secteur du BTP s'est arrêté pendant un moment, ce qui fait que les cimentiers se sont arrêtés. Or, par exemple, les déchets agroalimentaires sont souvent envoyés dans les cimenteries dans certaines régions. Et donc, quand les cimenteries s'arrêtent, tout à coup, c'est les groupes d'agroalimentaires, les groupes de les coopératives d'élevage, par exemple, et d'écarissage, qui se retrouvent en difficulté pour éliminer leurs déchets. Donc, on voit en ce moment plein de petites ruptures dans les chaînes qu'il faut remettre progressivement en route, avec des salariés qu'il faut faire revenir. Par exemple, dans le BTP, on a arrêté les chantiers dans certains cas, et puis maintenant, on demande aux salariés de revenir. Et c'est pas très simple quand on a un discours contradictoire, hein, quand vous entendez d'un côté les internes et les soignants qui disent surtout restez chez vous, et de l'autre le ministre de l'économie et le ministre du travail qui disent venez travailler, on a besoin de vous.
Voilà, et on comprend bien que tout se tient dans l'économie, hein, que c'est pas simple, comme vous l'avez expliqué à l'instant, de dire bah tiens, ça on arrête, puis ça on continue. Vous avez donné l'exemple de cette cimenterie, bah, si elle n'est plus là pour brûler les déchets, que fait-on des déchets qui s'accumulent? Fanny Guinochet, on parlait des secteurs essentiels. On voit bien dans les commerces, on va tous faire nos courses, hein, et on voit bien que parfois les clients ont des masques, mais les caissiers et les caissières n'ont pas de masque par moment. Est-ce que là, ce sont des héros, ou est-ce qu'ils se légitimement, ils pourraient demander à exercer leur droit de retrait dans ces cas-là?
Alors effectivement, je crois que vous avez raison, parler de héros, en ce moment, c'est le bon terme, parce que forcément, il y a une part de risque et on voit bien qu'il manque des masques pour les soignants. Donc même les chefs d'entreprise, les artisans qui ont envie de protéger au maximum leurs équipes ont du mal à trouver les produits élémentaires. C'est d'ailleurs pour ça que le bâtiment, à un moment, a demandé, et ça a donné lieu à en tout cas une querelle avec le ministère du Travail, le bâtiment a demandé, les patrons du bâtiment, la fédération, à stopper les chantiers, le temps de trouver une organisation du travail, suffisamment de masques, en tout cas suffisamment de protection pour sécuriser ses salariés. Et on voit que le droit de retrait, en fait, c'est pas aussi facile et automatique. C'est ça qui, c'est une zone grise. Il faut que ce soit un danger grave et imminent. Il faut que vous puissiez prouver que votre employeur n'a pas pris les dispositions suffisantes pour vous protéger. C'est là où il y a une zone grise. Alors, certains salariés vont l'exercer. Je pense qu'après cette crise, il y aura un certain nombre de dossiers qui pourront arriver devant les prud'hommes et ça sera très compliqué de départager ce qui a été légitime ou pas.
Robin Rivaton, il y a une autre faille qui éclate à la figure, c'est on a quand même des salariés à deux vitesses parce que sur les chantiers, on a donc des ouvriers sans masque de protection et qui reçoivent des ordres de cadres ou d'architectes ou d'ingénieurs qui sont eux chez eux sur leur sofa.
Oui, cette métropolisation et cette inégalité salariale qui s'était creusée un peu en forme de sablier, avec un certain nombre de métiers ou de jobs qui étaient un peu délaissés ou repoussés sur le côté, on voit bien que c'est eux qui font fonctionner les services essentiels de la ville notamment, et que sans les personnes qui aujourd'hui tiennent les caisses, nettoient les rues, sortent les poubelles, des choses aussi essentielles que ça, ces villes-là ne fonctionneraient pas, et qu'au final, la partie télétravail, en tout cas la capacité à travailler à distance, c'est qu'une fraction de l'économie. Aujourd'hui, les emplois postés, c'est-à-dire que les emplois sur lesquels, si vous n'êtes pas sur un lieu de travail parce qu'il y a un rapport avec un outil de production, parce qu'il y a des interactions sociales, c'est à peu près 60% des emplois en France. Donc on voit bien que le confinement avec l'idée de dire qu'on va pouvoir travailler à domicile, ça ne concerne qu'une partie petite, infime de la population.
20% dit le MEDEF. Hein.
Ouais,
20% des salariés.
On peut dire un peu plus si on élimine certains services qui ont été fermés, type l'enseignement par exemple. Ouais. Mais la réalité, c'est que ça concerne un petit volant d'emploi. Donc on a besoin de personnes sur le terrain. La question essentielle, c'est la question de leur protection. Aujourd'hui, on parlait du bâtiment. Moi, j'ai par exemple un de mes frères qui travaille dans le bâtiment. Est-ce qu'on veut aller sur le chantier? Est-ce qu'il n'y va pas? Et ça, c'est des questions qui aujourd'hui ne sont pas répondues, sur lesquelles le gouvernement n'a pas de réponse parce qu'il faut bien avoir en tête que le confinement, c'est la dernière cartouche dans la guerre. Oui. C'est aussi ça qu'on a du mal à voir, mais c'est la dernière arme qui vous reste
est dans pour lutter pays, contre la
pour
maladie.
Lutter contre la diffusion de la maladie. Dans tous les pays qui l'ont utilisé, ils ont utilisé le confinement en dernier recours parce qu'il n'y avait que ça pour stopper une situation qui était déjà très grave et qu'à côté de ça, il y a tout un ensemble d'autres tests, dont la protection des personnes, dont le dépistage systématique, dont la distanciation sociale, qui doivent venir en complément du confinement.
Et alors, Sylvie Matelli, on a aussi, autant en 2008, c'était les grandes entreprises qui chavirait. Là, on a l'impression que ce sont les toutes petites. Enfin, on se met à la place du cafetier, son café ferme, ou à la place de l'autre jour, il y avait à la radio, on entend des gens qui sont kinés, qui disent moi, j'ai zéro revenu, puis j'ai les factures, et je suis tout seul.
Tout à fait. Et ce qui est assez stupéfiant dans cette crise, que ce soit l'épidémie ou la crise économique, c'est que on a l'impression parfois d'une impréparation des gouvernements et des leaders politiques avec des choix très différents, des stratégies très différentes suivant les pays. Mais en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que rien n'a été anticipé, ni du côté de l'épidémie, qu'on n'a pas envisagé, alors même qu'un certain nombre d'épidémiologistes depuis des années alertaient sur les risques liés à nos échanges permanents, et on n'a pas du tout anticipé les conséquences d'un tel fléau, d'une telle épidémie sur nos économies. Et comme vous le disiez à l'instant, en 2008, on a commencé par voir des gens qui étaient mis à la porte. C'était la crise des subprimes parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leur crédit. Ensuite, ce sont des banques qui faisaient faillite et les États qui les sauvaient. Et puis, ce sont de grandes entreprises parce que en mal de financement de la part de ces banques. Et finalement, la crise financière est devenue une crise économique, mais a touché les entreprises qui s'étaient le plus mises en danger, qui avaient pris le plus de risques. Aujourd'hui, on a une crise, je serais tentée de qualifier d'universelle, c'est-à-dire à la fois les marchés financiers qui s'effondrent, le cours du baril de brut qui s'est effondré également, mais le petit entrepreneur local qui n'est pas véritablement menacé ou concerné par la mondialisation, sauf peut-être pour le restaurateur ou le cafetier, par les touristes qui l'accueillent, les touristes étrangers qui l'accueillent depuis quelques années, qui se retrouvent obligés de fermer et face à un risque de faillite extrêmement grand.
Alors, comment demander aux Français de sortir pour aller travailler alors que le message du gouvernement est aussi celui de rester chez soi? Mais voilà, il est indispensable de maintenir un minimum d'activité, surtout dans les secteurs clés de l'économie. Voyez ce sujet de Mathieu Lignot et Ilana Azinko.
Il continue de travailler pour nourrir les Français. Ces boulangeries parisiennes ne baissent pas le rideau. Mais face à l'épidémie,
il faut s'adapter. File d'attente, limitation du nombre de clients dans les magasins ou dispositif spécial.
Nous, on a fait des protections pour le client et comme pour notre personnel et ainsi que pour les produits.
On a le gel, on a les masques, on désinfecte les surfaces où on touche beaucoup, les filles travaillent avec des gants. Et le ménage derrière, oui. C'est, vous avez vu, c'est le Karcher, c'est l'eau chaude, il faut désinfecter.
Pas de télétravail pour des centaines de milliers de Français. Par exemple, les chauffeurs routiers, les dockers ou les employés du secteur alimentaire. En plein confinement, Emmanuel Macron a fait du en même temps.
Il faut à la fois passer un message au pays, à nos concitoyens, de protection, de distance, et d'autre part, continuer la vie économique. Aussi parce qu'il serait impossible de vivre, même confiné, de soigner, si on ne continue pas une activité économique qui permet tout simplement de vivre dans notre pays. Sur plusieurs sujets.
Le gouvernement veut encourager les entreprises à donner une prime de 1 000 euros, défiscalisée pour les employés qui doivent continuer de travailler. Problème, certains secteurs sont particulièrement exposés à la contamination. Comme la grande distribution. Dans ce supermarché filmé en caméra discrète, les salariés ne sont pas assez protégés.
La société ne nous a rien donné, on a demandé aux gens, il y a même des clients qui nous ont donné des masques. On n'en a même plus là, il nous reste 2 masques quand on est 7.
D'autres magasins sont mieux équipés. Les syndicats, dont la CFDT, appellent à protéger en priorité ses salariés en première ligne.
Moi, je considère qu'une caissière d'un supermarché, sa vie ne vaut pas moins qu'un ingénieur informatique qui est en télétravail. Et donc, il faut prioriser l'accès au gel, l'accès aux masques lorsqu'ils sont nécessaires.
Pas toujours facile à faire entendre aux chefs d'entreprise. Dans les entrepôts du géant de la vente en ligne Amazon, de nombreux employés se plaignent de leurs conditions de travail. Alors que les achats sur Internet explosent, les salariés organisent des débrayages, se mettent en arrêt maladie ou exercent leur droit de retrait. Ils accusent leur direction de les pousser à travailler.
Depuis le temps que les gens se mettent en droit de retrait, ils, eux, les mettent directement en absence injustifiée sans même pouvoir passer en justice, alors que théoriquement, c'est la justice qui doit décider si oui ou non ils étaient en absence injustifiée, payable ou non.
Des absences non payées qui ne passent pas du côté du ministre de l'Économie.
Ces pressions sont inacceptables et nous le ferons savoir à Amazon. Vous me demandez d'être court, je suis court et lapidaire.
L'épidémie du Covid-19 va avoir de lourdes conséquences sur l'économie. La récession pourrait atteindre 1% du PIB en 2020, même si certains continuent de travailler.
Alors, question téléspectateur, la priorité n'est-elle pas de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de personnes confinées plutôt que d'encourager les entreprises à rester ouvertes? On a l'impression que par moment, on est tenté de sauvegarder un peu l'économie au détriment de la santé.
Mais qu'est-ce que l'économie ? L'économie, c'est la production des biens et des services qui permettent à une société de fonctionner. Et donc, il y a des biens et des services qui sont jugés essentiels, d'autres qui peuvent être jugés accessoires. Mais comme l'a dit Sophie Fay tout à l'heure, un très grand nombre de secteurs de notre économie sont liés les uns avec les autres. Et quand il y en a un qui tombe, c'est un ensemble qui tombe. Quand on ferme les restaurants, bah, c'est les routiers qui ne peuvent plus aller aux toilettes, qui ne peuvent plus se nourrir, qui ne peuvent plus avoir, alors qu'ils ont des grandes courses à faire tout en traversant la France. Donc, on voit bien que l'économie est intriqué. Et donc, dire qu'on va fermer l'économie, ça peut être qu'une mesure de très court terme. Et c'est pour cela, encore une fois, que le confinement est une mesure qui ne peut être qu'une mesure de court terme et qui doit être accompagnée de la protection des salariés et du dépistage systématique.
Voilà, c'était Patrick Martin, le vice-président du MEDEF, qui disait, pour approvisionner les rayons dans les supermarchés, il faut en amont des cartons et du film plastique pour emballer les aliments, etc.
Et de proche en proche,
tout le monde est indispensable. Alors.
Et des gens qui récoltent, ça va être la saison, il va y avoir un début de saison agricole qui débute, et aujourd'hui, avec besoin de main-d'œuvre pour récolter, qui est disponible?
Fanny Guinochet, alors les secteurs, quand même, on se dit a priori, les secteurs indispensables, c'est quoi? C'est l'électricité, les télécoms?
Le ramassage des ordures, vous avez le médical évidemment, il faut pouvoir la logistique, le transport, c'est ce qui permet d'acheminer les produits de première nécessité. Vous avez même, pourquoi on maintient un réseau RATP ou un réseau dans les villes de bus, c'est aussi pour que les soignants puissent se rendre du côté des hôpitaux. Vous voyez que c'est assez large, l'exemple de l'emballage est assez bon. Si aujourd'hui vous avez des gens dans l'emballage des salariés qui s'arrêtent et des usines qui ne tournent plus, eh bien, vous avez un certain nombre de produits qui ne pourront pas être acheminés. Donc, c'est aussi ça la difficulté. Et on a senti le moment de flottement cette semaine du gouvernement parce qu'il y avait le droit de retrait, mais il y a aussi le chômage partiel qui a été largement utilisé par un certain nombre d'entreprises. Et c'est très bien parce que ça permet de rassurer les salariés, ça permet d'éviter des ruptures de contrat de travail. Mais il y a certaines entreprises qui ont aussi, et certains salariés, qui ont demandé à être au chômage partiel. Et du coup, le gouvernement a eu peur d'une économie totalement à l'arrêt. Alors d'ailleurs, on ne citera pas de nom, mais on sait qu'il y a certaines grandes entreprises qui, plutôt que de mettre certains de leurs salariés en télétravail, là où c'était possible de le faire, ont eu recours au chômage partiel, ce qui est quand même compliqué parce que ça veut dire faire payer à la collectivité, d'une certaine façon, des postes qui, pour le coup, peuvent être en télétravail. Donc on voit bien que la frontière, elle est ténue. On vit une situation un peu exceptionnelle que personne n'a vécue et chacun essaye de faire au mieux. Et il faut trouver ce curseur entre cette économie qui doit vivre, qui doit continuer de fonctionner à minima, en tout cas pour assurer les fonctions vitales, mais qui est très imbriquée, avec le respect au maximum du confinement et faire en sorte qu'on protège au maximum les salariés. C'est aussi ça la difficulté aujourd'hui des employeurs, des salariés, du gouvernement.
Sophie Fay, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, jeudi, a exhorté les entreprises à reprendre le travail. En fait, il a voulu corriger le tir parce qu'il avait peut-être donné l'impression, dans un premier temps, qu'au fond, l'État allait prendre à sa charge intégralement tout le chômage partiel et que tout le monde devait rester chez soi et surtout ne plus travailler.
Exactement, Axel. Il a fait une erreur de communication quand il a mis sur le même plan aller promener son chien, faire son jogging et aller sur son lieu de travail quand on remplissait la déclaration sur l'honneur pour sortir. C'est pas du tout. Il aurait dû distinguer trois catégories de personnes. Les commerces, les hôtels, la restauration, les secteurs où on se regroupe qui étaient fermés. Donc eux, automatiquement, leurs salariés pouvaient passer en chômage partiel. Les salariés qui pouvaient télétravailler et eux, on les laissait sur leur, on les faisait pas du tout venir sur leur lieu de travail. Et puis une troisième catégorie, tous les salariés qui n'étaient pas dans les secteurs fermés et qui n'étaient pas en télétravail, qui eux devaient se rendre au travail et qui devaient être déjà dès le début présentés comme des gens qui rendent un énorme service au pays et à l'économie. Et en faisant ça, ils pensaient qu'il y aurait une beaucoup plus grande partie de l'économie qui fonctionnerait. Ils ont même regardé l'exemple chinois et quand vous regardez ce qui s'est passé en Chine au premier trimestre, on voit que la croissance a baissé de 15% sur un trimestre, c'est beaucoup, mais ça veut dire quand même que 85% de l'activité a été maintenue. Or, ce qui est en train d'arriver chez nous, c'est pas du tout ça, c'est que c'est la moitié de l'activité qui va s'arrêter parce que on n'a pas été, peut-être les directives n'ont pas été assez claires, peut-être qu'on pouvait pas faire autrement, c'est difficile à dire, mais en tout cas, quand j'entendais dans votre reportage rappeler la prévision du gouvernement qu'il y ait une récession de 1% sur l'année, je crois qu'on sera bien au-delà.
Robin Rivaton, le journal Le Parisien faisait état ce matin des boueurs qui commencent à dire bah, « Écoutez, moi, je vais exercer mon droit de retrait, je vais me mettre en chômage partiel, etc. » qui demandaient le chômage partiel. Ce sont des dérives inquiétantes. Et je veux dire, par là, si on dit que c'est essentiel, est-ce qu'on peut envisager des réquisitions après tout Le chef de l'État a parlé de guerre, guerre contre virus. Dans les périodes de guerre, les soldats sont réquisitionnés.
Oui, il faudra possiblement peut-être passer par cette étape-là de la réquisition. Après, il faut voir si ces cas qui ont été cités ou remontés par Le Parisien sont des cas anecdotiques. Ouais. Où on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont mobilisés sur ces services essentiels, ils vont plutôt de manière aidante et plutôt encourageante pour aider le pays dans cette démarche qui est quand même assez lourde. Mais comme l'a dit Sophie, aujourd'hui, en Chine, on a bloqué une ville, alors une très grosse ville qui était Wuhan et ses environs, mais le reste du pays a quand même tourné. Donc le confinement n'a pas endommagé l'intégralité de l'économie chinoise, seulement une partie, alors que chez nous, on est quand même sur l'ensemble du territoire aujourd'hui qui subit ces mesures de confinement.
Ça veut dire, Sylvie Matelli, qu'il faut s'attendre en termes de croissance à une chute de l'activité si on continue comme ça, bien supérieure à 1%. Parce que pour l'instant, le gouvernement tape sur une baisse de la croissance de 1%. Oui. Pour mémoire, en 2009, elle avait baissé de 2,2%.
Donc, tout à fait. C'est un
scénario optimiste, là.
Tout à fait. Et les Allemands sont aujourd'hui sur des scénarios jusqu'à 9% de diminution de la production annuelle.
Ce qui serait du jamais vu depuis la guerre, non ?
Ce qui est quasiment du jamais vu depuis la guerre. En Allemagne, ça représente quasiment le double de ce qu'ils ont connu en 2008. Donc effectivement, alors même qu'ils ne sont pas encore confinés, et qu'ils ne le seront peut-être jamais. Donc on voit, on imagine ce que ça peut donner pour nous. Il y a plusieurs inconnus, en fait, dans les conséquences du confinement, parce qu'il y a beaucoup de télétravail, malgré tout, et de gens qui continuent à travailler et qui sont sur des activités où, au fond, peut-être qu'il ne va pas y avoir de facturation à très court terme, mais l'activité continue bon an, mal an. On peut continuer à travailler à quasiment normalement, sauf depuis chez soi. Il y a beaucoup de gens également qui, on l'a vu, hein, qui travaillent dans tous les domaines jugés essentiels. Et moi, je crois que sur le droit de retrait, j'ai l'impression, quand on interviewe les gens et quand on écoute ce que les gens ont à dire, c'est plutôt un droit de retrait, pas tellement parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent pas aller bosser, mais parce qu'ils ont peur parce qu'on les protège pas suffisamment. Et vous avez tous fait vos courses ces jours-ci au moins une fois. On est assez étonnés de voir tout plein de, et vous le disiez tout à l'heure, de voir tout plein de clients dans les supermarchés se balader avec des masques alors que les caissières n'en ont pas. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est comment on peut ne pas se poser la question quand on est dans un supermarché avec un masque, de se dire que celui qui fait l'effort de sortir de chez lui pour aller travailler, pour que je puisse avoir remplir mon panier pour nourrir ma famille, lui n'est pas protégé alors que moi, je peux me protéger. Là aussi, on parlait tout à l'heure des salariés à deux vitesses. Je crois qu'on a clairement la remise en évidence que les classes sociales n'ont jamais disparu en réalité.
Fanny Guinoche, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'une aristocratie en télétravail et puis les autres sur le terrain. D'ailleurs, Elisabeth Borne a appelé justement à ce qu'on applaudisse le soir tous les salariés, les héros discrets hein, dans les supermarchés qui font tourner le pays et qui viennent travailler. Parce qu'il y a un absentéisme. Alors, la grande distribution dit inférieur à 10%. Ça veut dire qu'il y a 90% qui viennent travailler.
Ce qui est assez terrible, c'est, on le sait, c'est qu'effectivement, ceux qui peuvent télétravailler, ce sont majoritairement des cadres. Hein, à 60-70%, ce sont des cadres qui peuvent télétravailler. Et souvent, les salariés qui sont aujourd'hui les plus exposés, ce sont les bas salaires, ce sont des petits salaires, ce sont souvent des gens qui n'ont pas aussi beaucoup d'épargne ou en tout cas beaucoup de trésorerie devant eux et qui peuvent se dire je peux me passer d'un mois ou deux sans salaire. C'est aussi ça ce que met en valeur cette crise. Et c'est pour ça que l'idée, par exemple, du gouvernement de donner une prime de 1 000 euros, c'était une idée qu'a lancée Bruno Le Maire cette semaine, c'était pour motiver ces salariés. 1 000 euros par rapport à des gens qui gagnent le SMIC, ça n'est pas rien. Mais qui va payer? Est-ce que les patrons vont jouer le jeu? Et ce qui manque surtout, c'est la possibilité, comme le disait Sylvie Matelli, de pouvoir protéger ces salariés.
Mais je me souviens d'ailleurs, Fanny Guinochet, que vous étiez la première à alerter sur, quand tout le monde parlait du télétravail comme d'une solution miracle, vous disiez, je me souviens très tôt, attention, le télétravail, tout le monde ne peut pas y avoir recours, il ne faudrait pas que ça se termine en un sentiment de déclassement pour ces salariés qui n'y ont pas accès et qui, eux, doivent
être sur le terrain. Je crois que c'est déjà vécu comme tel. Et puis, il y a aussi une autre catégorie de salariés, ce sont les salariés des plateformes, qui, eux, alors, sont encore aussi en première ligne
de livraison,
qui ont souvent des statuts, même pas de salariés, mais d'auto-entrepreneurs ou même ils travaillent de façon contractuelle à la tâche, et eux n'ont aucun moyen. Ils savent que s'ils ne font pas la livraison, ils toucheront rien du tout. Ils ne peuvent pas se mettre en arrêt maladie. On voit que là aussi, c'est une catégorie de travailleurs aujourd'hui dont il y a un certain nombre de Français qui aujourd'hui se font livrer leurs courses ou font appel à des livraisons, même pour des médicaments, des produits de première nécessité. Et eux, ils sont en grande, grande fragilité.
Oui, Sylvie Matelli.
Le plus terrible probablement dans cette crise et dans la crise économique qui va suivre, c'est que ce sont aussi ces personnes-là qui sont allées travailler pendant cette épidémie, qui ont pris le risque de sortir de chez eux et de tomber malades, qui vont probablement subir le plus les contre-coups de la crise économique qui s'annonce. Quand il y a une crise économique, traditionnellement, c'est les salariés les moins payés qui sont le plus facilement licenciés. C'est aussi le BTP, ce sont les commerces qui sont les plus affectés. Donc je crois que là, on est véritablement face à un défi extrême de choix de société. Que va-t-il se passer après? Est-ce qu'on va véritablement tirer les leçons et être reconnaissant à tous ces gens d'avoir risqué leur vie pour nous permettre de continuer à vivre en réalité? Et est-ce qu'on va les accompagner dans la crise qui s'annonce? C'est une vraie question et c'est une question qui risque de se poser de manière socialement extrêmement sensible.
Et alors, Robin Rivaton, puisqu'on parle des inégalités, vous qui avez beaucoup travaillé sur le logement, comme on est confiné chez soi en ce moment, évidemment, c'est plus ou moins difficile d'être confiné en fonction de son logement, de où il est placé, de sa taille, etc. À Paris, pour les personnes seules qui habitent, des étudiants, j'imagine, qui sont confinés dans les 8 mètres carrés, ça doit être très difficile à vivre.
C'est encore aussi pour ça que le confinement est une mesure de court terme. C'est parce qu'il a un coût économique extrêmement important. On l'a largement détaillé dans les minutes qui ont précédé. Il a un coût social extrêmement fort aussi. Il a un coût social pour des gens qui, malheureusement, il y a des situations familiales qui sont extrêmement dures. Donc des gens qui sont confinés dans des espaces réduits, c'est très dur. Et puis de l'autre côté, ne serait-ce pas en termes d'inégalité scolaire. Le retard qui est en train de s'accumuler, c'est quelque chose qui va se payer sur des générations. On passe l'année à dire qu'il y a des inégalités scolaires extrêmement fortes en France. Là, on est en train de les creuser, mais à vitesse grand V, et ça va se traduire sur des générations et des générations avec des gens qui vont, les courbes qui vont diverger. Donc le confinement a un coût économique et un coût social extrêmement fort, et il doit être vraiment accompagné de ces mesures qui sont des mesures de protection, des mesures de dépistage massives. C'est ce qui a permis dans tous les autres pays de passer du confinement à une réduction et à une réduction de la pandémie.
Donc l'égalité républicaine en prend un coup avec ce virus?
On parlait des emplois et du choix de société qu'il y a derrière. Il y a aux États-Unis un très grand mouvement qui n'est pas du tout lié au coronavirus, mais qui est aujourd'hui une augmentation très forte du salaire minimum pour tous ces employés qu'on a parlé. Le salaire minimum pour quelqu'un qui travaille dans la restauration, dans les fast-food, c'était 7$ de l'heure en 2013. Il a été passé à 15$ de l'heure en début d'année grâce à des associations et grâce à un grand combat qui a été mené en faveur de ces catégories qui sont les plus fragilisées. Je pense que c'est quelque chose dont on doit s'inspirer et qui doit nous permettre de se dire que dans ces métropoles où le coût de la vie est très élevé, où le coût du logement est un véritable problème, on doit faire un geste, on doit être capable d'offrir des réponses pour des classes populaires qui ont été plutôt exclues et repoussées sur les franges depuis quelques années.
Sophie Fay, finalement, on voit là les limites de cette société individualiste. Il faut retrouver peut-être le sens du collectif. C'est peut-être aussi ce que nous montre ce virus.
Et en tout cas, on voit qu'il existe le sens du collectif. Par exemple, dans les usines LVMH qui se sont mises à produire du gel hydroalcoolique, les salariés sont venus volontairement, en fait. Ils étaient volontaires pour venir produire ce gel et ils étaient assez contents d'être là. Donc, quand il y a du sens, et beaucoup de gens aujourd'hui mesurent le sens et l'importance de leur métier, ils sont heureux d'être là. Et j'allais dire, aussi, les gens qui sont en télétravail mesurent l'importance de ces gens. Donc ça, c'est vrai qu'on peut espérer qu'on retrouvera du collectif. Moi, il y a un autre sujet qui m'inquiète, c'est que cette crise, elle a montré la vulnérabilité de notre appareil productif. Les robots, eux, ne sont pas vulnérables au virus. Et donc, est-ce qu'en sortie de crise, on ne va pas aller encore plus vite vers un mouvement de robotisation, d'automatisation des tâches, et qui fait que le collectif, il faudra vraiment avoir beaucoup de volonté pour le réinventer et avoir beaucoup d'imagination sur le nouveau modèle économique qu'on voudra après.
D'ailleurs, Robin Rivaton, puisqu'on parle des nouvelles façons de travailler, est-ce que vous pensez que le télétravail va s'installer? Et c'était Mark Zuckerberg qui disait, avec les nouvelles technologies, bientôt, peut-être demain, travaillerons-nous depuis la campagne et on n'aura plus besoin de se rencontrer physiquement. Ce qui marquerait la fin de la métropolisation de l'économie dont on a beaucoup parlé, le fait qu'on se retrouve dans les grandes villes.
Oui, mais en fait, ce mythe de se dire que le travail va être décentralisé et qu'on va pouvoir travailler dans des espaces de plus petite taille que les métropoles, il est aussi vieux qu'Internet. Je vous invite à revoir les débuts d'Internet, on disait qu'on allait tout allait être décentralisé. La réalité est qu'on n'arrive pas à produire au si efficacement que lorsqu'on se rencontre. On n'arrive pas à innover derrière une webcam, on innove autour d'un café, on innove autour d'une bière, on innove autour en se rencontrant. Et c'est pareil pour signer un contrat. Vous ne signerez jamais un contrat à distance. Aujourd'hui, pourquoi il est plus dur de signer des contrats ? Parce que les gens ont besoin de se voir. Et plus le numérique sera falsifiable, moins vous croirez ce qu'il y a sur votre écran. Et c'est quand même des choses qui nous menacent aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a les deepfakes, on voit bien qu'il y a des vidéos qui sont aujourd'hui qui peuvent être transformées un petit peu la réalité, plus vous voudrez voir les gens en vrai. Donc la réalité, c'est que ce télétravail, qui est quelque chose qui est un complément, c'est-à-dire vous pouvez télétravailler un jour, deux jours par semaine, mais les trois autres jours de la semaine, vous vous rendez dans un lieu physique et vous voulez que ce lieu ne soit pas trop loin de votre logement. Donc de toute façon, le phénomène de métropolisation va continuer, peu importe cette crise du coronavirus.
Alors, le coronavirus paralyse l'économie mondiale depuis maintenant 2 mois. Après la Chine, l'Europe et les États-Unis font face à l'une des pires crises de leur histoire. Pour atténuer les dégâts, les gouvernements, les institutions promettent d'injecter des centaines de milliards d'euros dans leur économie. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Michel Bouilly.
Times Square, désert. Les rues de New York, silencieuses. Même chose à Los Angeles. Les activités non essentielles y sont stoppées pour lutter contre la propagation du coronavirus. 7 États américains ont pris la décision du confinement. Un coût supplémentaire pour l'économie qui souffre depuis une semaine. Des dizaines de milliers de personnes ont été licenciées aux États-Unis. Pour sauver la première économie mondiale, un plan de sauvetage de 1 000 milliards de dollars est en discussion au Sénat.
Ce n'est pas une politique ordinaire, mais nous ne sommes pas dans une période ordinaire. Les Américains ont besoin d'aide et vite.
Il s'agirait du plus grand plan d'aide depuis le New Deal dans les années 30. Donald Trump envisage même d'envoyer 1 000 dollars directement aux ménages américains.
Je pense que nous allons faire quelque chose qui leur rapporte de l'argent le plus rapidement possible.
Nous voulons nous assurer que les Américains obtiennent de l'argent dans leur poche rapidement. Nous voulons nous assurer que les petites entreprises aient accès aux fonds.
Partout dans le monde, des milliards sont injectés au secours de l'économie. Alors que l'Europe se barricade et fonctionne au ralenti, la Banque centrale européenne a débloqué un plan d'aide de 750 milliards d'euros.
Les temps extraordinaires nécessitent une action extraordinaire. Il n'y a pas de limite à notre engagement envers l'euro. Nous sommes déterminés à utiliser le plein potentiel de nos outils dans le cadre de notre mandat.
Ça veut dire que la Banque centrale reprend les commandes de ce point de vue-là et assure qu'il n'y aura pas de faillite des États. Ça permet aux États à proposer des plans de soutien. Et là, on voit maintenant fleurir un peu dans tous les pays européens des plans de soutien budgétaire, c'est-à-dire que les États vont être là pour soutenir les entreprises, pour soutenir les ménages, notamment par du chômage partiel, de manière à ce que la récession qui arrive en zone euro et qui est certaine, le coût de cette récession soit absorbé par les finances publiques et pas par les acteurs privés.
Hier, et c'est inédit, la fameuse règle des 3% maximum de déficit budgétaire imposée par Bruxelles est suspendue pour les 27 États de l'Union.
Cela signifie que les gouvernements nationaux peuvent injecter dans l'économie autant qu'ils en auront besoin.
Injecter de l'argent massivement, et pourquoi pas nationaliser les grands groupes en difficulté économique. Car de plus en plus d'entreprises stoppent leur production, notamment dans le secteur automobile.
On peut tout à fait envisager que les pouvoirs publics qui aident des entreprises puissent avoir ensuite des prises de participation dans ces entreprises. C'est le débat aux États-Unis ou encore le débat en Espagne, de dire qu'on va essayer d'éviter nos entreprises étant fragilisées, qu'on ait des prises de participation de la part d'entreprises étrangères, éventuellement asiatiques, qui profitent du contexte.
L'option, en France, est envisagée.
Les choses doivent être très claires. Nous avons plusieurs options sur la table pour toutes les entreprises, grandes entreprises industrielles qui pourraient être menacées sur le marché. Ça peut être des montées au capital, ça peut être une participation plus importante au capital, ça peut être des nationalisations. Nous avons toutes les options sur la table.
Une des entreprises concernées pourrait être Air France KLM. 80% de ses salariés vont être au chômage partiel dans les prochaines semaines.
Alors, question téléspectateurs, quelles sont les entreprises qui pourraient être nationalisées, pour quelle efficacité et à quel coût, Fanny Guinochet ?
Bah, effectivement, Air France, c'est un très bon exemple. Hein. Air France, c'est la compagnie française. Aujourd'hui, Air France souffre. La plupart de ses avions sont cloués au sol. Ses salariés au chômage partiel, au chômage technique. Donc, ça ne serait pas idiot que le gouvernement, qui a 15% du capital, réinjecte, reprenne des parts, monte au capital pour redonner de la liquidité, de la trésorerie à Air France. Idem pour Renault. Renault, c'est un fleuron français qu'on n'a pas envie de voir déposer le bilan, bah là, pareil, le gouvernement pourrait reprendre des parts le temps de passer la crise. Le gouvernement l'avait fait, par exemple, pour une entreprise comme STX, ce sont les chantiers navals. Et à un moment, c'était en 2017, hein, c'est pas si vieux, c'était au début du quinquennat Macron. Le temps que les chantiers navals soient repris par les Italiens, notamment en partie, il y a eu une nationalisation temporaire. Donc là, on peut se dire que le temps où on passera la crise, le gouvernement peut faire ça avec certaines entreprises nationales, stratégiques. L'idée, c'est aussi d'éviter que ces entreprises, vous l'avez dit dans le sujet, ça a été mentionné, soient prises par des prédateurs, c'est-à-dire des capitaux étrangers, que ce soit des capitaux chinois, asiatiques, et qu'il y ait une partie de nos bijoux de famille, hein, si on peut dire, qui partent sous fleurons étrangers. Alors, on voit bien que c'est un changement de pied, que ça pourrait être temporaire, que c'est un énorme changement de pied parce que il y a encore quelques jours, quelques semaines, on parlait de privatiser,
privatiser
les aéroports de Paris. Non sans polémique, hein, quand même. Hein.
Et finalement, on va nationaliser Air France. Robert Rivaton, nationalisation, plan de relance, déficit à 9%, etc. Qui va payer ? Et est-ce que la dette, c'est la réponse à tout ? Est-ce qu'il y a un moment, il ne faut pas s'attendre à ce que l'année prochaine, on ait une hausse, on a un impôt coronavirus, quoi.
On va avoir effectivement une augmentation de la dette, puisqu'il y a deux canaux. Hein. Il y a ce que les banques centrales font, donc sur la politique monétaire, et elles permettent grosso modo d'aider les marchés financiers et les banques à supporter cette crise de l'économie.
Donc, elles impriment des billets, c'est pas notre
Elles leur rachètent des actifs. Ces banques apportent des actifs, et face à ça, elles ont de l'argent liquide et de l'argent frais. Donc ça, c'est vraiment un canal de transmission. Et il y a un deuxième canal qui est celui des États, donc la politique budgétaire, où les États effectivement prennent en charge du chômage partiel en des proportions jamais vues. Parfois indemnisent des indépendants, on l'a dit, ce qui est aussi extraordinaire, vont aider des entreprises, vont créer vont prendre des garanties, et donc tout ça a un coût. Effectivement, on parle d'un déficit public possible pour l'année qui peut dépasser les 6, 7, certaines personnes disent 10% du PIB, ce qui ne serait jamais vu et qui explique...
En 2009, c'était 7%.
7% en 2009. On dépasse, aujourd'hui, le consensus des économistes est en train de se dire qu'on va dépasser ce qu'on a vécu en 2009. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, ça va se traduire par une augmentation de l'endettement de la France. On parlait de savoir si la France allait tutoyer les 100% du PIB. Là, on les a explosés. Là, c'est plus le sujet. C'est qu'on les a explosés en l'espace de quelques semaines. Et donc, la question qui se posera, c'est comment demain cette dette va être résorbée. Deux solutions. Soit, effectivement, on va augmenter les impôts pour l'absorber. Soit, on va avoir une forte hausse de l'inflation qui va, à un moment, peut arriver aussi.
Comme après la Deuxième Guerre mondiale.
Comme après la Seconde Guerre mondiale. Avec cette impression monétaire d'un côté et de l'autre côté, cette augmentation de la dette, il n'est pas impossible que cette inflation qu'on croyait avoir disparu de l'économie revienne.
On peut avoir les deux, hein, inflation et impôts.
Exactement.
est-ce que tous les pays sont... Est-ce que je veux dire, pas la consolation, mais au fond, ce coronavirus, il frappe tous les pays. Est-ce qu'il frappe les économies de tous les pays de la même façon ?
Non, pas de la même façon, parce que tous les pays ne sont pas touchés par l'épidémie de la même façon et que tous les pays ne sont pas sensibles à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire insérés dans la mondialisation de la même manière. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne. L'Allemagne, alors que bien moins touchée par l'épidémie, anticipe une conséquence économique extrêmement grave, parce que l'Allemagne est très dépendante de la Chine et de
elle
ses relations
commerciales.
Tout à fait. Elle exporte qui plus est beaucoup. Et d'ailleurs, au moment de la crise de 2008, c'était en Europe l'Allemagne qui avait été la plus touchée. Mais c'est aussi l'Allemagne qui s'était remise le plus rapidement. Donc on voit que il y a quand même une grosse différence entre un choc économique à un moment donné et la façon dont on est touché par ce choc et puis les conséquences ensuite. D'ailleurs, je voulais revenir aussi sur les nationalisations. Moi, je crois qu'il y a un scénario B aussi dans ces nationalisations, mais peut-être à moyen terme, qui pourrait conduire les États à considérer qu'il y a des secteurs qui sont stratégiques et que les laisser à la seule loi du marché n'est plus satisfaisant. Je pense en particulier au secteur de la pharmacie. pharmacie et au secteur de la santé. Et on pourrait imaginer...
C'est-à-dire qu'on a laissé nos laboratoires délocaliser la production de médicaments pour répondre à des soucis d'économie et il serait peut-être bien d'être
tout
un peu plus souverain.
Et il est possible, effectivement, que dans une... en tirant les leçons de cette crise, on identifie un certain nombre de secteurs comme des secteurs stratégiques, le secteur agricole, le secteur de la santé, la pharmacie, et qu'on décide d'aller plus loin dans ces nationalisations. Alors, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais malgré tout, avant que la crise épidémique ne devienne ce qu'elle est devenue, c'est des questions qui avaient été posées, y compris par Thierry Breton, qui est quand même l'un des commissaires européens aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans des scénarios où tout est possible. Et pour la Banque centrale, c'est la même chose. Certains parlent aujourd'hui de monnaie hélicoptère. Vous savez, c'est l'idée que vous balancez des dollars ou des euros d'en haut d'un gratte-ciel, ils vont tomber dans la rue et les gens qui en ont le plus besoin vont les récupérer. On peut très bien imaginer une banque centrale qui, plutôt que de mettre des liquidités sur les marchés financiers,
des banques,
les mettent à la disposition des entreprises, des États, pour éviter de trop amplifier la dette publique. Donc là aussi, on pourrait assister dans les semaines qui viennent, si le désastre économique annoncé se produisait, à des innovations à la matière.
Sophie Fay, est-ce qu'on peut rêver, une fois que cette épidémie sera vaincue, et elle le sera, d'un nouveau modèle? Je dis ça parce que parmi les bonnes nouvelles, il y a eu la chute de la pollution en Chine. Moins 25% de CO2 en février. Alors voilà, est-ce que maintenant tout va repartir comme avant et on va repolluer, etc., et remettre nos containers sous les océans? Ou est-ce qu'à l'issue de cette épidémie, un autre modèle, une autre économie un peu différente pourrait émerger?
Alors, c'est difficile de vous répondre parce qu'on a déjà eu deux ou trois épidémies auparavant et qui n'ont rien changé. Et on a vu aussi, par exemple, après la Première Guerre mondiale, il y a eu cette épidémie de grippe espagnole et en réalité, l'économie n'a pas du tout changé après. Donc, même avec des prises de conscience fortes, si jamais la sortie de crise est bien gérée, on finit par repartir très vite sur ces vieilles habitudes. C'est ce qu'on avait vu aussi après la crise de 2008. On avait dit plus jamais ça, plus de paradis fiscaux. Et finalement, il a fallu énormément de temps pour qu'on en sorte. On avait dit qu'on diminuerait le poids de la finance et ça s'est pas produit. Donc j'aimerais être optimiste, mais il va vraiment falloir une forte volonté politique et une volonté politique coordonnée au niveau international. Et là, on voit bien qu'il y a pas vraiment de consensus ou de coordination internationale sur ce plan-là. Mais on voit quand même des choses incroyables qui se mettent en place. Par exemple, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il y a cette idée de donner 1 000 $ ou un chèque de 1 000 livres aux gens qui perdent leur emploi tout à coup pour pas les laisser sans rien. Et donc, ça revient à mettre en place le début du revenu universel dont on a parlé, qui paraissait complètement inimaginable avant. Et en France, d'une certaine manière, quand on dit on donne le chômage partiel à un maximum de personnes ou qu'on donne 1 500 € à des indépendants, on ne sait pas encore quel est le contour exact de cette mesure, mais normalement 600 000 personnes pourraient être concernées, eh bien on voit qu'on se dirige vers ce revenu universel qu'on n'imaginait pas possible à court terme.
Fanny Guinochet ?
Moi, je pense qu'effectivement, il y aura quand même j'ose espérer, je suis peut-être plus optimiste, mais une prise de conscience. On le voyait apparaître, ne serait-ce que sur la question des batteries et des véhicules électriques. Avant même la crise du coronavirus, il y avait eu cette volonté, en tout cas politique, et même des industriels, c'était PSA qui était derrière, de dire « Ok, on va passer à l'électrique, mais si nos batteries sont produites en Chine, on se met dans une forme de dépendance qui va être compliquée à gérer. Essayons de construire un Airbus de la batterie. » Et on commençait à lancer l'idée, en tout cas une construction avec les Allemands pour qu'il y ait des usines ou en tout cas des constructions de batteries en Europe. Je crois que du côté du médicament, Sanofi est un peu en locomotive pour essayer, pareil, de construire un Airbus du médicament. Je pense que derrière, il y aura certainement une volonté politique, mais une volonté citoyenne qu'on aille vers cela. Maintenant, est-ce que ça va aboutir? Comment on va définir les secteurs stratégiques? Est-ce qu'on va accepter? Est-ce que le citoyen consommateur va accepter d'en prendre les coûts? Parce que c'est bien beau, mais d'avoir une usine chimique, une usine de médicaments, ça veut dire de l'industrie chimie pas très loin de chez vous. Est-ce que ça veut dire payer ses produits plus cher? Est-ce que ça, le citoyen consommateur est prêt à l'accepter? Il faut voir. Je pense quand même que Pour les jeunes générations, je ne vois pas comment les gens de 20 ans, même si aujourd'hui ce n'est pas les premières victimes du coronavirus, mais c'était les premiers à alerter sur ne serait-ce que la préservation de la planète, je pense qu'il y aura un mouvement quand même citoyen pour être un peu plus attentif. Je ne dis pas que ça va révolutionner notre modèle économique, mais par rapport à 2008... Même les enfants aujourd'hui qui sont confinés, les ados qui sont confinés, je pense que ça va quand même les marquer et qu'ils auront envie d'un monde un peu différent.
Un mot sur les relations internationales, Robin Rivaton. On a vu la Chine, alors on a parlé de diplomatie du masque. C'est vrai qu'elle envoie des masques aux Italiens, elle envoie même des médecins, des docteurs, à la France également, elle nous envoie des masques. Alors qu'on a, au contraire, on a eu l'impression d'une Europe un peu aux abonnés absents, chacun a gardé ses masques, il y a eu peu d'entraide. Est-ce que l'Europe s'est abîmée et la Chine s'est imposée ?
Alors, tous les pays européens ont envoyé des fournitures à la Chine au mois de janvier, hein, quand la crise s'est déclarée. La France a envoyé 17 tonnes d'équipements divers et variés.
Donc, on ne l'a pas dit.
On l'a peut-être moins fait savoir, en tout cas avec moins de relais que n'a la puissance chinoise. Mais on a joué ce rôle-là. Aujourd'hui, la Chine joue un rôle d'aide dans la gestion de cette crise, puisqu'ils l'ont quand même géré. Alors, on peut toujours avoir des doutes sur les statistiques. La réalité est quand même qu'aujourd'hui, l'activité économique reprend et que le nombre de cas... Encore une fois, on peut avoir un petit doute, mais le nombre de cas reste très largement plus faible que ce qui avait été lorsque l'épidémie a été découverte ou en tout cas est devenue publique, c'est-à-dire fin janvier à Wuhan. Aujourd'hui, la Chine, effectivement, marque des points dans les relations internationales parce qu'il y a eu une gestion... La Chine et l'ensemble des pays asiatiques, des pays comme Taïwan ou la Corée du Sud, ont géré la crise avec ce qui est considéré par la plupart des épidémiologistes de manière remarquable. Et donc, il y a quand même un leadership dans ces pays qui est en train d'émerger à travers plusieurs, je dirais, trois grands points. Le premier, c'est une capacité de production industrielle sur leur territoire. La Corée du Sud a réagi parce qu'ils ont été capables très rapidement de se mettre à produire des tests en quantité très importante et des masques et à des coûts relativement faibles, ce que nous ne sommes pas capables de faire aujourd'hui en Europe. Le deuxième point, avec un contrôle et un civisme de la population qui a respecté l'ensemble des règles qui ont été édictées par les autorités. Et là aussi, on peut juger qu'il y a des modèles plus autocratiques, mais même dans des modèles démocratiques, type Corée du Sud ou Taïwan, les règles ont été respectées avec un confinement, sans confinement, encore une fois. Il n'y a pas eu de confinement.
Les petits Coréens vont à l'école avec des masques.
Exactement. Et dans un troisième temps, avec une économie qui a été préservée, là où nous, on voit bien qu'on va subir des conséquences très fortes. Donc, il y a bien une sorte de modèle, en tout cas, de leadership asiatique qui émerge de cette crise.
Vous parliez, Romain Rivaton, des doutes sur les statistiques. Que penser quand l'Inde nous dit 4 morts pour un pays d'1,3 milliard et la Russie vit 1 mort, et encore, c'est tout récent. Veut dire quoi, ça
et on a très, très peu de cas en Afrique aussi, donc on peut se permettre de douter. Est-ce que véritablement, ils suivent et ils comptabilisent les malades et les morts? Ça paraît assez extraordinaire, surtout l'Inde, qui est quand même au cœur du foyer. Il y a quelque chose de très intéressant aujourd'hui qui se passe.
Et à l'inverse, juste un mot, est-ce qu'on a une explication sur le fait que l'Allemagne est 10 fois moins de morts que la France, alors que c'est un pays plus peuplé?
Alors, après, on pourra en tirer en faire un bilan après. C'est-à-dire, on se rend compte qu'à 15 jours près, regardez ce qu'était l'Italie il y a 15 jours, il y avait 2 morts en France. On aurait pu se poser la question pour la France, comment se fait-il qu'il n'y a que 2 morts en France alors qu'on en a déjà des centaines en Italie? Et on s'est aperçu que c'est parce qu'on avait juste 2 semaines de retard, en fait, en termes de contamination. Donc ça, c'est... je ne suis pas sûre que ce soit lié à des modes de vie, mais plutôt à...
La mauvaise nouvelle, je l'annonce, puisqu'elle vient de tomber, c'est 800 morts de plus aujourd'hui en Italie. On passe à 4800 morts.
Tout à fait, donc de jour.
C'est dire le warning, l'alerte sur la France, en espérant que ça se passe moins mal chez nous.
Tout à fait, et qu'on est confiné au bon moment. Il y a quelque chose de très intéressant sur la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un pays, parce que pays émergent dans les années 70, donc sans système de santé et sans système de sécurité sociale, c'est un pays qui, d'année en année, au fur et à mesure des réformes depuis 30 ans, depuis 1989, renforce son système de sécurité sociale, avec un système de sécurité sociale qui est aujourd'hui universel, obligatoire, y compris quand vous êtes un étranger, si vous vivez plus de 6 mois en Corée du Sud. Vous êtes obligé de payer l'équivalent de 100 € tous les mois pour votre sécurité sociale, à tel point que les complémentaires ne sont pas indispensables parce que vous êtes extrêmement bien remboursé. Et c'est vrai que ça veut dire aussi des entreprises derrière qui ont des obligations, qui ont des contraintes extrêmement fortes et donc qui sont capables de réagir très très rapidement. Donc ça questionne une fois de plus, et désolé de le répéter et de radoter, sur nos modèles de société. Et moi, ce que je trouve très intéressant en matière de relations internationales, c'est la différence de réaction en parallèle des États-Unis et de la Chine. Une Chine qui, certes, a été probablement ou incontestablement le premier foyer de l'épidémie, mais qui aujourd'hui se rachète une conduite, a montré combien elle était capable de très bien gérer et s'ouvre, continue à s'ouvrir sur le reste du monde, fait le choix de l'ouverture et de l'aide aux autres pays. Et puis des États-Unis, où on a l'impression que c'est le chacun pour soi, non seulement des États-Unis par rapport au reste du monde, mais aussi à l'intérieur des États-Unis. Une Californie qui confine pendant que d'autres ne le font pas. Et ça... Ça nous dit beaucoup aussi sur ce qui est en train de se produire dans les relations internationales depuis quelques années, depuis en particulier l'élection de Trump. Et ça risque de repositionner les choses encore une fois, de marginaliser un peu plus les États-Unis au profit de la Chine, contrairement à ce que souhaitait la stratégie qui était la stratégie de l'administration américaine aujourd'hui.
C'est dire si ce virus en révèle beaucoup
de
choses.
Tout à fait.
Alors, depuis le début de la semaine, beaucoup de Français, ceux qui le peuvent, découvrent le télétravail. Pas toujours évident de s'y quand les écoles sont fermées et que les enfants sont cloîtrés dans le même logement. Alors voici quelques bons conseils pour ne pas devenir totalement fou de Romain Besnénou et Erwan Illion.
Dans le cadre normal, on a en général un peu plus d'amplitude et de marge de manœuvre. Là, évidemment, on est sur un contexte très particulier. Donc ça nous précipite tous dans un espace assez petit. Et on doit jongler littéralement. Donc, il y a des choses qu'il faut absolument préserver pour réussir à télétravailler. Je le disais tout à l'heure, c'est des réunions efficaces de synchro avec vos collègues. Ça, il faut vous astreindre, vous forcer, trouver une astuce pour avoir au moins un quart d'heure par jour où vous avez un appel clair avec vos collègues. Ensuite, pour le reste, je crois que beaucoup d'équipes là vont s'ajuster, vont s'adapter au contexte. Certains vont travailler en horaire décalé. On entend déjà ça chez nos utilisateurs aujourd'hui qui se décalent pour gérer les enfants peut-être le matin et l'après-midi, les laisser faire des jeux, apprendre tout seul différentes choses et se concentrer sur des interactions sur ces dossiers. Bon là, bref, on est sur une phase de jonglage. C'est pas le télétravail classique, hein.
C'est
un télétravail d'urgence.
Ce qui est important pour un très jeune enfant, c'est que son parent ne paraisse pas paniqué par une situation. Si un jeune enfant sent un parent apaisé, eh bien, le jeune enfant va s'apaiser. Donc, respectons des rythmes dans la journée, notamment des rythmes de prise d'informations ensemble sur des chaînes officielles ou bien dans les journaux écrits, lire des textes à nos enfants qui nous paraissent intéressants, de manière à leur assurer le recul suffisant. Il faut que la famille se fixe des temps. C'est une espèce d'organigramme collectif avec des temps communs et des temps partagés, des temps de travail et des temps de loisirs, et même des espaces dans lesquels chacun puisse se retirer. Parce que vous savez, ça va être très difficile, c'est très difficile pour les personnes seules qui risquent de se sentir abandonnées, cloîtrées chez elles, mais c'est très difficile aussi pour des couples ou des familles où chacun va avoir l'impression que l'autre peut à tout moment empiéter sur son territoire, voire empiéter sur sa liberté.
Alors, question téléspectateurs, les violences conjugales ne risquent-elles pas d'exploser? Oui, c'est pas facile de se retrouver seul à faire la classe à ses enfants, en face à face du matin jusqu'au soir avec sa compagne et son compagnon. Non, mais c'est une épreuve, c'est une épreuve familiale, non? Je sais pas qui veut réagir, ou Sylvie Matelli.
Oui, tout à fait. Mais quand on parle de violence conjugale, je pense que c'est encore plus grave.
Oui,
c'est,
non. Alors là, la situation de famille. C'est pour ça que je l'ai reprise sans aller jusqu'aux violences conjugales. Il peut y avoir un peu d'énervement, d'agacement.
Très clairement, on imagine qu'effectivement, dans des situations extrêmement tendues dans certaines familles, les violences conjugales puissent s'amplifier.
Et alors, Sophie Fay, je crois que vous étiez, pour un reportage, vous avez vu un addictologue qui met en garde les Français. Car rester confiné chez soi pourrait vous faire replonger dans de mauvaises habitudes.
Oui, alors sur les violences conjugales, il y a un gros problème, c'est que le numéro d'urgence, le numéro d'appel ne répond plus parce que les gens sont confinés aussi, ou je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, il y a vraiment un déficit de ce côté-là. Alors cet addictologue, écoutez, c'est un cabinet de conseil, un GAE conseil qui travaille avec les entreprises et qui aide les directeurs des ressources humaines à aider les salariés qui se retrouveraient en situation d'addictologie. Et donc, ils soutiennent pas mal de patients et ils se rendent compte que depuis le début de ce télétravail forcé, ils ont à peu près 70% des cas de personnes qui rechutent, parce qu'il y a deux phénomènes qui permettent de résister et de lutter contre ces addictions.
C'est l'alcool, c'est quoi?
Alors, c'est l'alcool, c'est les addictions aux drogues, Ça peut être aussi des addictions au jeu. Et ce qui les fait rechuter, eh bien, c'est l'ennui et l'absence de lien social et l'absence de rituel. Parce qu'en général, quand on met en place un protocole pour que les gens se sortent de leur addiction, eh bien, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres, il y a des sorties. Quand vous êtes au bureau, vous n'êtes pas à côté de votre réserve de boissons chez vous. Et donc là, on voit les personnes rechuter. Et donc, ils s'attendent, en fait, en général, à une augmentation des comportements d'addiction au jeu, avec les plateformes de jeux en ligne, et notamment de jeux d'argent en ligne, à des problèmes d'alcool, des problèmes de comportement alimentaire détraqué.
On va grossir pendant cette période de confinement.
Ouais, ça, c'est le moins pire, j'allais dire, qu'il puisse nous arriver. Mais surtout, ils disent qu'il faut être très attentif aux autres, parce que d'habitude, vous voyez vos collègues qui viennent, vous voyez qu'ils ont des cernes, vous voyez qu'ils ont l'air inquiets, vous voyez que des changements. Et quand vous êtes en télétravail, vous ne détectez pas ces petits changements du quotidien. Et donc, il faut être très attentif aux changements dans la relation de travail. C'est-à-dire, si quelqu'un se met à vous envoyer des mails à minuit ou à 3h du matin, il ne faut pas répondre sur le coup, mais il faut se poser la question, lui demander le lendemain matin si tout va bien et s'il n'a pas quelque... Il faut surveiller tous ces petits indices qui peuvent montrer que la vie des gens ou le comportement des gens se détraque.
Robin Rivatin, je voyais acquiescer. Même si vous parliez de ces emails, c'est quand même bien pratique. Hein. On reste maintenant, on peut se téléphoner parce que c'est gratuit maintenant de téléphoner. Moi, je disais, il y a 20 ans, il fallait payer hein, quand on téléphonait dans un autre département. C'est quand même bien pratique de rester en communication avec tous ces petits emails-là.
Oui, il y a eu cette révolution des outils du télétravail. Deux des entreprises qui fournissent ces outils ont vu leur cours, leur action extrêmement progresser le mois dernier à la bourse de New York. Et c'est pareil en Chine, on a vu l'explosion de ces outils pour conserver un esprit d'équipe. Mais comme l'a dit Sophie, la relation humaine ne s'arrête pas à seulement se voir. La relation humaine, c'est un ensemble de petits détails, c'est percevoir des changements chez l'autre, c'est se sentir, c'est beaucoup plus complexe que seulement se voir à travers un écran. Et aujourd'hui, on va voir le lien et en tout cas l'utilité sociale du travail. On parlait tout à l'heure de revenu universel. Le revenu universel, c'est dire on vous donne de l'argent même si vous ne travaillez pas. On se rend compte et on verra à la fin de cette crise que le travail a des vertus sociales extrêmement fortes. Il permet de connecter les gens, d'avoir des relations personnelles, professionnelles, mais qui sont par nature aussi personnelles. Il permet d'éviter de se retrouver face à soi-même, ce qui est quand même quelque chose qui peut être relativement dur. Et donc, on va voir l'impact et l'intérêt social, l'utilité sociale du travail à la fin de cette crise.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Qui garde les enfants des caissières, des ouvriers, de tous ceux qui travaillent parce que leur tâche est essentielle?
Ils font un peu comme ils peuvent, mais il y a quand même un congé qui a été mis en place. En tout cas, vous pouvez prendre un arrêt maladie, 100 jours de carence, si vous avez des enfants de moins de 16 ans. Donc, ce congé s'applique aussi, normalement, aux caissiers, aux ouvriers. Ouais. Et pour les soignants, les collectivités, avec l'éducation nationale, ont mis à disposition des accueils. Donc, il y a des enseignants qui vont faire la classe en accueillant les enfants des soignants. Il y a des réquisitions aussi dans certaines crèches avec du personnel de crèche et des ouvertures de crèche pour accueillir les enfants des soignants. Mais soignants, c'est au sens large, hein, que ce soit les pompiers, que ce soit cette chaîne médicale absolument indispensable aujourd'hui.
Que va-t-il se passer pour les entreprises qui n'ont aucune trésorerie? Alors, le chef de l'État a dit qu'il n'y aura pas de faillite. Mais enfin, des faillites, il y en a 50 000 par trimestre, hein, d'une façon générale. Sophie Fay.
Alors, pour l'instant, la doctrine un peu qu'ont adopté tous les États, c'est personne ne doit perdre son travail et son revenu à cause du virus. Donc, on va soutenir les entreprises. Il y a un dispositif auprès de la Banque publique d'investissement pour pouvoir apporter justement ces crédits en trésorerie. Il y a les assureurs crédits. Vous savez, il y a un mécanisme, en fait, souvent quand vous avez des factures en attente, l'entreprise qui vous a facturé peut apporter sa facture à un assureur crédit qui vous assure le financement en attendant que l'autre paye. Alors, ça, c'est un mécanisme assez fort parce que si jamais on pense que vous n'allez pas payer, bah, tout à coup, on vous met une mauvaise note et on n'accepte plus de refinancer votre facture et là, tout s'arrête pour vous. Eh bien, ces assureurs crédits ont dit qu'ils auraient un fonctionnement dérogatoire pendant la crise et qu'ils n'allaient pas arrêter d'assurer les plus petites entreprises.
Est-ce si compliqué de fournir des gants et des masques aux salariés? On sent bien qu'il va y avoir un sujet sur les masques une fois cette épidémie vaincue. J'entendais ce matin Olivier Duhamel dire ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire à l'issue de tout pour savoir pourquoi on n'a plus de masques et ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qu'on attend pour en distribuer.
Parce que vraisemblablement, ce n'est pas compliqué. C'est juste qu'on ne les a pas, en fait, hein, et qu'on en a pas.
C'est pour ça qu'on dit qu'on en a pas besoin, qu'on disait au début, finalement, ils sont pas, ça ne sert à rien.
Encore une fois, je pense qu'une commission d'enquête sera la bienvenue pour savoir ce qui s'est passé autour de ces masques, en fait, et de ces gants aujourd'hui, et pourquoi on n'en a pas à disposition.
Comment éviter les dépôts de bilan pour les commerces qui ont été obligés de fermer ?
Il va y avoir un fonds, c'est ce qu'expliquait Sophie Fay, mais il y a aussi un fonds d'indemnisation qui va être mis en place. Il y a le médiateur des entreprises qui est très qui est à l'écoute. Normalement aussi les banques, on a parlé des assureurs, mais normalement les banques doivent jouer le jeu, c'est-à-dire offrir à leurs clients des suspensions de crédit, trouver certaines facilités pour que les entreprises, et notamment les plus petites, hein, qui ont le moins de trésorerie et les reins les moins solides puissent passer la crise. Mais est-ce que les banques vont jouer le jeu? Certaines demandent un certain nombre de contraintes, elles demandent des justificatifs à certaines entreprises pour leur accorder ces facilités. Donc là, le gouvernement a donné une consigne claire. Normalement, la fédération bancaire est derrière. Il faut aider parce qu'il faut aider les entreprises en premier lieu, parce que derrière, le gouvernement, c'est tout le jeu aujourd'hui du plan d'urgence et de sauvetage, garantit les prêts, hein, et derrière, vous avez encore la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc, on voit bien qu'il y a tout un domino qui s'est mis en place pour essayer de garantir, de rassurer à la fois l'économie financière, mais aussi l'économie réelle.
Merci aux agriculteurs et aux ouvriers de l'agroalimentaire qui sont au travail pour que nos magasins soient approvisionnés. Oui, voilà, on se rend compte qu'on est toute
on
une chaîne.
On revient fondamentaux.
Hein, et Elisabeth Borne disait ce soir, ce serait bien de les applaudir à 20h. À nos fenêtres, et les associer donc au personnel de santé. Va-t-il falloir pour le monde entier un plan Marshall ? Robin Rivaton, est-ce que on a un mode d'emploi, c'est ce qui s'est passé en 2008. Hein. On a vu que pour ne pas que ça s'effondre derrière, il fallait ne pas mégoter sur la relance. Au moins, ça nous a servi, ça va nous servir.
Exactement, la leçon de 2008, c'est qu'il faut agir très fort et très vite. C'est ce que tout le monde a retenu, et ne pas laisser surtout un domino tomber, parce que sinon, il entraînait tous les autres, en l'occurrence, c'était Lehman Brothers. Donc aujourd'hui, ce qui a été annoncé, à la fois dans la politique monétaire et à la fois dans la politique budgétaire, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, c'est des choses qui sont extraordinaires, au sens où ils sont historiques, en termes de volumes qui ont été mobilisés. Donc ça a amené à se poursuivre. La question aujourd'hui, c'est encore une fois, quand est-ce qu'on va sortir de ça ? Comment ça va se passer ? On parlait des entreprises qu'on est en train d'aider. Vous parlez de 50 000 défaillances par trimestre. On va avoir un effet quand même de rattrapage en juillet. Quand tout ça, ça sera un moment, juillet ou plus tard, mais quand tout ça va s'arrêter, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont des zombies, qui ne tiennent en fait que grâce à cette injonction de crédit qui va à un moment disparaître. Et donc, comment on va gérer cette chute-là, ce retour à l'activité normale ? Et ça, aujourd'hui, personne n'est capable de le dire.
Oui,
je voulais peut-être juste rajouter une chose, c'est qu'à la différence de 2008, et je ne veux pas jouer les rabat-joie de la soirée, mais à la différence de 2008, on est en guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Certes, il y a un accord, elle s'est calmée, mais on n'est pas du tout dans le même contexte. Au niveau européen, on est dans la négociation, la dernière ligne droite du Brexit, et on risque de se diviser. Et puis on a vu il y a deux semaines qu'on n'arrive pas à tomber d'accord sur ce que sont les priorités en Europe, et donc sur quel budget on va avoir besoin. Donc je crois que le contexte est un petit peu différent, un petit peu inquiétant. On est plutôt dans du repli sur soi et dans des égoïsmes nationaux que dans de la coopération. Et la possibilité de mettre en place et de réagir comme on l'a fait en 2008 paraît plus compliquée. Moi, je crois qu'il faut vraiment, parce que au demeurant, ceux qui vont faire la différence, c'est les citoyens. On parlait tout à l'heure des citoyens consommateurs, mais d'abord le citoyen. Je crois qu'il faut vraiment que les gens soient très attentifs, que chacun d'entre nous soit très attentif sur la suite, parce que aux États-Unis, en Chine, en Europe également, ce sont d'abord chacun d'entre nous, dans la perception qu'ils auront de ce qu'il faut construire après et de la façon dont il faut réagir, qui peuvent faire changer de point de vue nos dirigeants.
Comment font nos voisins italiens ? Qui télétravaille ? Qui doit aller travailler ? Sophie Fay, on disait déjà avant la crise que l'Italie était l'homme malade de l'Europe. D'autant que là, la crise, elle frappe la Lombardie, elle frappe le poumon économique de l'Italie. Est-ce que on sait qu'en 2008, la Grèce a failli trébucher. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'Italie post-coronavirus ?
Alors, il y a eu des inquiétudes la semaine dernière, puisqu'on a vu tout de suite que les taux d'intérêt italiens se tendaient. Donc, c'est pour ça aussi que la BCE a réagi une deuxième fois, beaucoup plus fortement, avec cette fois une vraie solidarité européenne pour ne pas hésiter, pour acheter de la dette italienne.
Pour que le domino italien ne tombe pas, pour reprendre l'expression de Robin Ribatin.
Pour que le domino italien ne tombe pas. Et une des choses, on parlait tout à l'heure de pourquoi il y a moins de cas en Allemagne et pourquoi c'est l'Italie qui est tombée en premier. Il y a une statistique de l'OCDE qui est très intéressante. Hein. C'est le nombre de lits de soins intensifs pour 1000 habitants. Et on voit que c'est l'Italie qui avait le plus réduit. On a 2,5 lits de soins intensifs pour 1000 habitants, alors qu'en Allemagne, on a 6 lits de soins intensifs pour 1000 habitants. Et donc, il y a aussi ces questions-là qui reviendront après la crise et qui seront très, très importantes. Et aujourd'hui, alors, qui télétravaille, qui doit aller travailler en Italie, je crois que c'est aussi confus que chez nous.
Mais Fanny Guinochet, quand nos professionnels de santé nous disaient on n'a plus les moyens de travailler et l'hôpital est au bout du rouleau, quand on voit ces chiffres de l'OCDE dont parlait Sophie Fay, qui nous montrent qu'en Allemagne, ils ont deux fois plus de lits de réanimation qu'en France, et bien voilà, on en paye quelque part le prix de ce sous-financement chronique de l'hôpital.
Ah bah ça, c'est clair que l'hôpital n'a pas attendu la crise du coronavirus pour hurler son asphyxie. Hein. Ça, clairement, ça va être une question là aussi qui va être posée de façon très violente à l'issue de la crise. Et puis sur le fonctionnement de nos systèmes, parce que ce qui a fait aussi qu'en Italie, il y a eu une telle contamination, c'est parce que la médecine de ville, c'est-à-dire les médecins qui ne sont pas donc à l'hôpital, que vous allez voir en consultation à côté de chez vous, avaient été très peu nombreux. Donc tout le monde avait été réduit ces dernières années. Donc tout le monde, quand il a été malade, dès les premiers symptômes en Italie, tout le monde est allé à l'hôpital, d'où la propagation aussi extrême et cet engorgement.
Dans les salles d'attente à l'hôpital.
Dans les salles d'attente. Alors qu'en France, alors est-ce que la crise aura bien été gérée? C'est trop tôt pour le dire, mais en France, il y a eu la mise en place d'un numéro 15. Quand ce numéro 15, vous arriviez à l'avoir, on vous disait surtout, vous allez voir votre médecin traitant, mais vous faites attention, vous prenez des dispositions, ou bien alors vous n'y allez pas tout de suite, vous attendez d'avoir un certain nombre de symptômes respiratoires. En tout cas, vous n'allez pas aux urgences. Et là, on voit bien que le confinement, c'est aussi l'idée, c'est de faire en sorte que les flux à l'hôpital, dans les hôpitaux, se fassent à la queue leu-leu, quoi, que tout le monde n'arrive pas en même temps, qu'il n'y ait pas un pic de la maladie, de la contagion, même si c'est déjà le cas malheureusement du côté du Grand Est et ça commence à l'être en Île-de-France, pour étaler les arrivées à l'hôpital, là, étaler les respirateurs, etc.
Pourquoi maintenir les bureaux de tabac et pas les librairies? Robin Ribatin, les libraires disent que c'est terrible parce que les gens commentent sur Internet et ils vont garder ces habitudes. Et nous, comment on va se réveiller après cette crise?
Oui, comme le SRAS en Chine avait favorisé le développement du e-commerce chinois. Après, pourquoi certaines activités plutôt que d'autres? Encore une fois, c'est cette question du confinement qui fait que l'État, peu importe aussi qualifié soit-il, aucun ministre ne peut décider ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Et donc, ils choisissent un peu en fonction de...
Mais le commerce en ligne sera le grand gagnant et donc il va encore accroître sa part de marché au détriment des librairies et des petits commerces.
C'est sûr que ça va accélérer la montée en puissance du e-commerce dans le panier moyen qui aujourd'hui est à peu près à 10% de la dépense des ménages. Il est évident que ça va accélérer vers 20-30% de la dépense des ménages qui va passer par Internet.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est possible et disponible en podcast sur toutes les plateformes. Merci de votre fidélité. Vous restez sur France 5 à suivre C'est l'hebdo.